Bonjour, bienvenue dans le goût du monde, une tasse de thé à la main et la marmite pas très loin. Nous voilà prêts à parler de ces bonnes choses qu'il nous faut manger pour bien vivre. Et puis nous allons jouer aussi pour apprendre à s'occuper de soi et de son enfant bien avant sa naissance, pour lui apporter l'alimentation dont il a besoin dès ses premiers instants de vie, de ce dont vous avez besoin pour qu'il se développe et grandisse. Il est question ici de ce que l'on mange, et oui, parce que la plante n'a-t-elle pas besoin un peu d'eau pour grandir elle aussi. Nous parlons de grossesse, d'alimentation, tout cela concerne tout le monde, les hommes, les pères aussi, donc ne quittez pas votre poste. Nous avons la chance d'avoir avec nous deux femmes médecins, d'ici et d'ailleurs, j'ai envie de dire, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Brigitte Audras.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre, vous avez exercé toute votre carrière en PMI, c'est un centre de protection maternelle et infantile, je le précise, parce que dans ces centres, on est au plus près des femmes, des enfants et des conversations d'un petit peu de tous les jours et de ces questionnements qui vous ont été adressés très probablement, Odile Oberlin, puisque vous êtes pédiatre également. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Ici à notre table. J'ai dit que vous étiez internationale, c'est parce que vous êtes toutes les deux pédiatres membres d'une ONG internationale qui s'appelle L'Appel. Vous êtes allées, l'une et l'autre, dans bien des pays du monde, en Afrique, à Madagascar, en Afghanistan également, au Burkina Faso, d'où votre connaissance également du terrain et de comment on vit, mère, enfant, quand on est dans d'autres pays que sous ces latitudes occidentales. L'Appel, on en a parlé déjà, parce que L'Appel a créé ce jeu en 2007 qui s'appelle NutriCart, pour prévenir et lutter contre la malnutrition infantile, pour apprendre en fait à bien se nourrir tout simplement. Le principe, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté la précédente émission, c'est un plateau avec quatre catégories élémentaires et essentielles, des catégories d'aliments, avec des aliments de construction, des aliments de protection, des aliments d'énergie, et puis la boisson bien sûr, et on va parler de l'eau comme principale boisson. Alors, la grossesse, on apprend qu'on attend un enfant. Comment est-ce que ça évolue en termes d'alimentation? Est-ce qu'il faut qu'on varie son alimentation, qu'on adapte son alimentation à son état, comme on a l'habitude de dire maintenant, à sa grossesse? Comment est-ce qu'on fait? À quoi est-ce qu'on doit penser en priorité pour adapter son alimentation? Odile.
Dès le début de la grossesse, c'est important d'avoir une alimentation, non pas manger pour deux, comme on a tendance à le dire, mais manger avec une qualité encore meilleure que d'habitude. Parce que la grossesse et les premières années de l'enfant, l'enfant va passer d'une cellule constituant l'embryon à un enfant qui va mesurer 85 cm et qui va peser 12 kg. Donc en fait, dans ce laps de temps qu'on a l'habitude d'appeler sous le nom de 1000 jours, 9 mois de la grossesse et 2 fois 365, ça fait 1000, la croissance de l'enfant est extrêmement rapide. Et tout retard dans la croissance de l'enfant à cette époque-là va avoir des retentissements après, jusqu'à sa vie d'adulte compris.
Tout au long de sa vie, oui.
Voilà, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la bonne alimentation pendant la grossesse et puis pendant le temps de l'allaitement de l'enfant. D'abord, pendant 6 mois, l'allaitement est exclusif et après ça, un allaitement de complément. Voilà, et quand je parle d'une alimentation de qualité, c'est une alimentation qui va contenir les aliments de construction dont vous avez parlé la fois dernière, c'est-à-dire des aliments contenant des protéines animales, comme le poisson et la viande, mais ça peut être aussi des protéines végétales, celles qui viennent des pois, des légumineuses, de l'arachide. Et puis, des aliments de protection, que sont des micronutriments, du sel iodé.
Des
fruits et des légumes.
Ce qui va nous apporter des vitamines.
Absolument. Essentiel pour sa propre santé et la santé de l'enfant.
Et la santé du bébé.
Voilà. Et puis, des aliments d'énergie, parce que c'est un travail
physique. Ça, ce sont les plus faciles, généralement.
C'est la base de l'alimentation, c'est les céréales et tous les repas. Dans tous les pays du monde, ont une base de céréales, que ce soit dans la zone du riz ou dans la zone du pain.
Oui, on a toujours une céréale. Et donc, cette boisson, on va privilégier l'eau, on est d'accord.
Parce qu'il
existe de nombreuses boissons, mais si on a juste de l'eau, déjà de l'eau, c'est déjà l'eau propre.
Voilà, de l'eau propre.
De l'eau propre, j'ai vu votre regard.
J'aimerais rajouter un tout petit mot sur ce que vient de dire Odile. C'est-à-dire que ces 1000 premiers jours, ils sont vraiment très, très importants. Parce que pendant ce court laps de temps, l'enfant se construit et il a besoin de sa maman pour se construire. comme une maison a besoin d'être construite avec des bons matériaux, là, c'est pareil, il faut fournir des bons matériaux pour une construction qui dure et qui tienne. Et les bonnes fondations d'une maison sont indispensables. Et si on se rappelle qu'un enfant à 2 ans a parcouru la moitié de son chemin par rapport à la taille adulte, on mesure l'importance de ce temps qui est très bref dans une vie humaine pour bien se construire. Parce qu'après, si on est mal construit, ben, c'est fini, on est mal construit, on n'arrive pas vraiment à rattraper. Donc tout ce que vient de dire Odile est capital dans un laps de temps très court. C'est rien dans une vie humaine si on y pense. Mais c'est quelque chose qui est indispensable. Si on n'a pas les bonnes fondations et les bonnes bases, eh ben, on est raté.
En la matière, les bonnes fondations, c'est la mère qui les apporte au fœtus et au bébé.
Exactement.
Et donc la mère doit d'abord prendre soin d'elle. Et de son alimentation. Oui. Je plaisantais en disant une alimentation variée et équilibrée, parce que ce sont toujours des grands mots. Oui. Mais qu'est-ce que revêt le nom d'alimentation variée et équilibrée ?
Pour moi, Odile, tu me contrediras si c'est nécessaire.
Alors je préciserai juste que vous connaissez très bien.
Oui. Oui. Quand on regarde le plateau des aliments tel qu'il a été décrit, il y a 3 couleurs. Et ben, il faut que l'alimentation comporte les 3 couleurs. Donc on apprend à reconnaître les aliments en fonction de la couleur sur laquelle on va les dispatcher. Et après, quand on compose un repas, ben, il faut s'assurer qu'il y ait 3 couleurs. On a besoin d'une assiette multicolore, moyennant quoi l'alimentation est équilibrée. Après, les quantités, c'est autre chose. Hein. Ça dépend. Si on est une femme enceinte, évidemment, on va manger plus que si on est un petit enfant de 1 an. Hein. Mais ça, on travaille petit à petit. Mais équilibré, c'est ça que ça veut dire.
Et c'est dans 3 couleurs. Variété, justement, des aliments dans l'assiette que vient l'équilibre.
Voilà,
aussi,
c'est ça.
Que naît l'équilibre.
Et après, on apprend que les aliments de construction qui sont si importants pour les tout-petits et les femmes enceintes, il y a, comme le disait Odile, des protéines animal, viande, poisson, œufs, etc., lait. Et puis, il y a d'autres aliments qui peuvent les remplacer. Donc, on n'est pas obligé de manger de la viande. Quand on est une maman, on peut manger des pois, des lentilles, tout un tas d'aliments, des protéines végétales qui vont venir compenser l'éventuelle difficulté à se procurer des aliments de protéines animales.
Souvent plus chers.
Qui sont plus chers.
La femme enceinte a l'avantage d'avoir, elle, un estomac terminé, donc qui peut absorber
elle
une
peut
quantité substantielle de protéines végétales qui pallieront au manque éventuel de protéines animales.
On dit grosso modo qu'une ration, entre guillemets, de protéines animales équivaut à 3 de protéines végétales, ce qui montre qu'il faut avoir un estomac plus grand pour manger plus de pois ou de lentilles ou que de viande. Ouais.
La question que je me posais cependant, c'est qu'on a vu aussi à l'occasion de la précédente émission que l'ordre et les priorités alimentaires changeait au fil de la vie, qu'un adulte donc avait besoin aussi lui, mais peut-être davantage d'aliments d'énergie, puis de protection et un peu moins de construction. Ça s'inverse complètement quand on est enceinte, c'est ce que vous nous expliquez. Mais dès le début de la grossesse, il faut renforcer son apport en éléments de construction. Comment est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on va préférer?
L'idéal, c'est dès le début de la grossesse.
Donc les protéines, enfin c'est ça, les aliments de construction, donc tout ce qui va apporter, quoi d'ailleurs? Dans la construction du bébé.
Qui va apporter les acides aminés et le fer. On reviendra peut-être dessus après parce que c'est essentiel. Qui va construire le corps de l'enfant, les muscles, les os, le cerveau, le sang.
D'accord. Donc dès qu'on sait qu'en fait on est enceinte, il faut d'emblée commencer à adapter son alimentation. On va peut-être être un peu fatigué, avoir envie de boire davantage, envie de se rassurer avec certains aliments.
Alors il peut y avoir effectivement ce qu'on appelle des envies. Et en fait, c'est vrai que la femme enceinte, elle peut avoir des états émotionnels fluctuants et quelquefois se mettre à avoir des envies. Et en fait, il y a beaucoup de civilisations, j'allais dire, même ici la culture occidentale, dit qu'en fait, il vaut mieux combler les envies de la femme parce que sans quoi, ça pourrait porter préjudice à l'enfant.
Alors, c'est une réalité, ça.
C'est peut-être enjolivé, mais en tout cas, ça dit bien les états émotionnels possibles du début de la grossesse.
Qui peuvent être un peu compliqués.
Ouais.
Et notamment des sentiments de mal-être aussi, de nausées, de désagréments, clairement, qui accompagnent le...
Et puis les grossesses, ça peut être des grossesses rapprochées, la grossesse sur laquelle on ne comptait pas vraiment, et puis la fatigue de la grossesse précédente. L'enfant précédent est encore allaité, et on avait espéré que ça soit un peu contraceptif, mais non, l'allaitement est un peu contraceptif, mais pas tant que ça, et donc on peut être fatigué de la grossesse précédente, et hop, on apprend... Donc on peut avoir des sentiments mitigés... quand on apprend qu'on est enceinte. Hein,
et des états physiques aussi différents en fonction de la femme que l'on est au moment où on est enceinte. Comme vous venez de le dire, on peut déjà avoir un enfant dans les pattes et devoir se gérer, ce qui double évidemment la fatigue. Il y a, grâce à ce jeu aussi, le Nutri-Carte, la possibilité, donc c'est un jeu avec lequel on joue, ce sont des cartes plastifiées qui sont très facilement manipulables et qui ont l'avantage de représenter des aliments qu'on va leur trouver dans son quotidien complètement. Et ils ont l'avantage, ces cartes aussi, de nous faire découvrir peut-être des aliments auxquels on n'aurait pas forcément pensé et du coup de déclencher des discussions entre les différents participants du jeu et des discussions plus ou moins enflammées et plus ou moins fortes en termes d'apprentissage. Je vous propose d'écouter Marie-Madeleine Tiendré-Beogo, que j'ai rencontrée grâce à vous. Elle est la directrice d'une association de femmes au Burkina Faso à Koudougou. C'est une communauté d'une centaine de jeunes femmes et de jeunes filles. Dans cette communauté, elles apprennent un métier pour gagner leur vie, des travaux de couture par exemple, un peu de cuisine aussi. Certaines ont été formées au Nutri-Carte, un peu sceptiques d'abord, hein, quand même, Marie-Madeleine. Elle raconte les effets concrets de ce jeu sur sa communauté.
C'est une formation avec des cartes, c'est très amusant pour moi. Et quand les femmes ont appris et puis elles sont retournées dans leur famille, dans leur secteur, c'était très, 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 très intéressant. Et on a eu la participation de beaucoup, beaucoup de femmes. Et comme c'est quelque chose qui est appris par les femmes des villages. Et comme il y a aussi beaucoup d'ethnies et de régions différentes, le message passe vite et très bien. Et les femmes sont contentes d'apprendre. Les premières séances, quand ils rentrent à la maison, ils racontent à leurs voisines, à leurs enfants, voilà maintenant ce qu'on va préparer, on doit mettre comme ça, on doit mettre comme ça. Ça, c'est très, très intéressant. Et ça change leur mode de vie et leur façon de préparer et de nourrir la famille. Et aussi là-bas, peut-être, ce n'est pas la même chose, puisque c'est peut-être pour faire comment préparer la bouillie. Et puis bon, pour les enfants malnutris, comment les nourrir. Mais ça, c'est uniquement les enfants qui sont mal nourris qu'on apprend. Mais ce n'est pas élargi pour même une personne qui est bien portant, comment il faut manger. Et puis aussi, dans les cultures africaines, on interdit certaines femmes enceintes de ne pas manger des œufs, de ne pas manger tel ou tel aliment. Bon, elles les acceptent parce qu'elles ne savent pas ça. Elles disent que si tu manges des œufs, l'enfant qui va naître sera voleur. Mais avec Nutri-Carte, ils ont vu que ce n'est pas vrai, que c'est faux. Mais bon, c'est parce que les chefs de famille, les maris ne veulent pas qu'on mange les œufs de leur poule. Eux-mêmes, ils vont dire à leur mari, non, il faut se nourrir de tel aliment pour que l'enfant qu'elles attendent soit en forme, naisse en bonne santé. Et qu'elles-mêmes, elles soient en bonne santé pour aller pousser, pour que l'enfant aussi puisse vivre, quoi. Pour allaiter aussi le bébé, et à quel moment l'enfant va commencer à prendre ses premiers bouillies, à quel moment l'enfant va commencer à prendre les repas familiales. Tout ça, c'est avec Nutri-Carte, ils ont appris. Ça.
Même avec les grands-mères?
Les grands-mères, elles viennent aussi pour voir ce que c'est une nouveauté. Parce que les grands-mères, c'est vrai qu'elles aussi, ils avaient leur manière de nourrir, mais ce n'est pas pareil. Donc elles aussi, elles viennent échanger et dire voilà ce que nous on faisait avant et voilà une autre méthode que nous allons aussi écouter et regarder et ça va nous les servir pour qu'elles puissent s'occuper de leurs petits-enfants. C'est un échange de connaissances. On apprend aussi ce que la grand-mère connaissait, on prend ça, on améliore pour que la vie soit belle, quoi.
Et est-ce que les hommes, du coup, ils sont un peu curieux et quand ils voient leur femme revenir, justement, avec des idées, avec comment ça se passe après?
Les hommes, ils sont contents parce qu'elles font leur démonstration et disent, voilà, on a appris comment mélanger les nourritures, comment il faut manger telle chose, et les aliments qui donnent la force, les aliments qui donnent l'énergie, les aliments qui donnent tout ce que le corps a besoin. Et leurs maris qui vont dire, ah bon, toi tu as eu maintenant de la connaissance, donc ils vont tous appliquer. Ils encouragent les femmes à aller. Et avec les cartes, c'est très bien parti le message, puisqu'elles touchent. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte? Qu'est-ce qu'il y a, la photo là-dessus? Ils vont dire tout de suite, c'est une carotte, c'est une tomate, c'est de la viande, c'est du poisson, c'est ça. Donc, où est-ce qu'on doit le placer? Tout de suite, elles connaissent. Et c'est comme des jeux de cartes que les gens jouent, quoi. Donc, c'est amusant et en même temps formateur. Et ces personnes aussi qui ont eu cette formation sont fières de pouvoir nourrir les enfants, d'éduquer leurs enfants. Et les jeunes filles qui sont dans la cour, qui ne sont pas mariées, et tous, ils vont apprendre avec leur maman comment il faut nourrir, qu'elles auront aussi leur grossesse, comment il faut manger. Et elles vont suivre aussi leurs filles qui sont enceintes, leur alimentation, pour que ça puisse être bien. Ils ont même les trucs pour mesurer le tour de bras. Tout ça, c'est amusant. Ils se disent, ah, voilà, on est devenus des médecins, nous aussi. La maman aussi va prendre et puis mesurer le bras de l'enfant et voir, ah, et c'est elle-même qui va dire, ah, mon enfant, il est en bonne santé. Mon enfant est en train de rentrer dans la malnutrition. Mon enfant est comme ça, ceci, cela. Donc, ça fait la fierté de tout le monde.
Marie-Madeleine Tiendré-Béogo, qu'on entendra encore un peu plus tard dans cette émission, elle parle d'un mètre. C'est un instrument de mesure.
C'est un bracelet, qui a trois couleurs. Il y a des mensurations, il y a des centimètres, mais il y a surtout trois couleurs. Et en fait, il se trouve que le tour du bras d'un enfant, entre 6 mois et 5 ans, est le même, même si l'enfant grandit, en fait, son bras va proportionnellement
s'allonger.
Et donc, en fait, ils ont toujours le même tour du bras. Et donc, c'est un bracelet avec trois couleurs. Vert, si l'enfant va bien, c'est-à-dire si son périmètre est de la bonne taille. Et puis après ça, c'est jaune, c'est malnutrition modérée, il faut regarder l'enfant de très près. Et rouge, c'est la malnutrition sévère. Et à ce moment-là, il faut consulter rapidement. Et donc, c'est la maman qui elle-même peut comme ça surveiller elle-même son enfant. Et c'est une ONG qui a montré que cette mesure du périmètre brachial par la maman était plus efficace pour détecter plus précocement la malnutrition des enfants. Et finalement, il y avait les mamans savaient déjà les mesures correctrices qu'elles devaient apporter à l'alimentation de leur enfant, et qu'il y avait donc moins de malnutrition. Et quand il y avait une malnutrition sévère, elle était prise en charge quand même plus tôt que s'il fallait attendre la tournée des enquêteurs pour aller... Voilà. Donc c'est la maman, on lui dit de surveiller le périmètre brachial de son enfant tous les 15 jours si l'enfant va bien. Et puis si l'enfant est malade, paraît avoir des difficultés à manger, à ce moment-là, on le surveille à intervalles plus rapprochés. Et c'est vrai que c'est très important, hein, ce que dit Marie-Madeleine, sur la fierté qu'ont les mères de s'occuper vraiment de la santé de leur enfant avec...
D'en avoir les moyens concrets de voir, de réaliser. Ce qu'elle disait aussi, que j'ai trouvé tellement évident. Elle me disait, mais ce qui est super, c'est qu'on parle entre nous dans nos différentes langues et du coup, on n'a pas de référent, on peut se comprendre davantage et puis une fois qu'on est au village, on va pouvoir échanger encore et dans nos langues. On n'a pas de barrière justement ou d'autorité qui va dire il faut pas. Cette construction, elle se fait ensemble. Cet aspect-là, il est très important, Brigitte aussi.
Tout à fait. Je pense que un des intérêts majeurs de cette pédagogie. Tout à l'heure, on a dit que c'était des cartes plastifiées, mais sur ces cartes plastifiées, il y a des photos.
Oui, j'ai pas dit qu'il y avait
des... parce que ça paraît évident et en même temps, ça ne l'est pas vraiment. Mais les photos, ça parle bien. On voit quand même tout de suite de quoi il s'agit. Et c'est vrai qu'il y a des photos, d'ailleurs. Moi, je ne sais pas ce que ça représente. Hein, mais par contre, les dames ou les messieurs à qui on le montre, ils savent très, très bien. Donc, c'est vraiment des aliments qui ont été photographiés dans les différents marchés qu'il y a autour des endroits où on intervient. Donc, c'est quelque chose de très concret, en effet. Et puis, en fait, après, les mamans, elles discutent. Et puis, il y a même des disputes autour de où est-ce que je mets cette carte. Ah, mais si, je la mets là. Ah, mais non, c'est de la construction. Ah, mais non, pas du tout. Et puis, alors, les cartes, elles se baladent. Elles changent de catégorie jusqu'à ce que tout le monde se soit mis d'accord. Alors, elles sont souvent à cheval. Parce que, quand même, il faut faire des compromis. Et c'est assez intéressant, les cartes qui se promènent d'une catégorie à l'autre. Il y a des cartes comme ça qui sont vraiment, qui représentent des aliments, les arachides par exemple. Ce sont des aliments très intéressants parce qu'on peut les mettre soit comme aliment de protection, parce qu'il y a beaucoup de gras, soit comme aliment de construction, parce qu'il y a des protéines. Donc c'est intéressant parce que quand on manque d'un de ces aliments-là, pour une raison ou pour une autre, on peut toujours mettre la carte d'arachide.
Et ce qui
ça vient
de...
remplacer, ça vient compléter. Et ça, c'est quelque chose de précieux parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut sous la main.
Et ça permet d'ouvrir les yeux et de se dire, voilà. Bah, finalement, je pensais ne pas avoir, et en réalité, j'ai.
Le goût du monde. Clémence Denavy.
Jabari de Toumani Diabaté sur RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Comment bien se nourrir pour bien vivre et pour que se développe et bien vive aussi le bébé que l'on porte lorsque l'on est enceinte? Quelle alimentation, quels sont les besoins de ces périodes si particulières que sont la grossesse puis l'allaitement une fois l'enfant né? Nous sommes avec Brigitte Audras et Odile Oberlin, toutes deux médecins, pédiatres et membres de l'ONG Appel. On palabre, on joue, c'est dont on parlait avec Marie-Madeleine à l'instant. L'importance justement de se réapproprier la mainmise et les décisions sur l'alimentation de son enfant, sur sa propre alimentation, sur justement cette coudée par rapport au médecin qui peut peut-être sembler parfois extérieur. Est-ce que c'est une manière de ramener la palabre et la conversation, les discussions au sein de la communauté, Odile ?
Bien sûr. Le fait que ça soit un groupe d'une dizaine à douzaine de participants, de participantes, il y a forcément quelqu'un qui a le savoir. Et vous parliez des belles-mères, elles sont aussi interviewées sur leur savoir, elles connaissent des choses. Et donc finalement, ce n'est que restituer à la communauté les savoirs qui existent, qui ont été perdus par certains. Et le fait que ça se transmette entre participants fait l'efficacité de ça. C'est pas du tout quelque chose qui vient du haut vers le bas. Oui, les nutritionnistes, j'espère qu'il n'y en a pas trop, ont un peu tendance à dire voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il ne faut pas. Alors que là, en fait, c'est les mères de famille qui apportent leurs connaissances et qui partagent avec les autres. Et comme disait Brigitte, on peut en discuter. Et quelquefois, on en discute de façon assez vive. Ouais. Mais à partir du moment où ça vient des participantes, ça a beaucoup, beaucoup plus de poids que si ça venait de la part de l'animatrice.
C'est l'expérience qui est partagée. Et non plus transmise ou juste transmise dans un seul sens. Il n'y a plus d'hiérarchie, on partage. Et c'est pour ça que les grands-mères aussi, c'était extraordinaire de comprendre qu'en fait, ah bah tiens, je regarde comment je joue. Manifestement, je peux en tirer des bonnes choses et on va récupérer tout le bon et dans la tradition et dans la modernité du jeu et de ce que ça permet. On a parlé d'alimentation variée, équilibrée. On parle souvent de carence également, de manque en fait en début de grossesse. Ça peut être aussi pour des jeunes filles déjà malnutries. Donc, qui vont commencer une grossesse malnutrie également. Quelles sont les carences les plus fréquentes auxquelles on va être confronté? S'il y a peut-être l'anémie qui me vient d'emblée à l'esprit.
Bien sûr, vous avez raison, la carence en fer et qui donne des anémies. Déjà, la population de ces pays-là, de base, manque éventuellement de fer du fait d'une alimentation déséquilibrée. Et donc, est déjà fréquente dans la population, que ce soit ça a été fait des enquêtes chez les enfants et chez les femmes enceintes en début de grossesse où on regarde quel est leur taux d'hémoglobine, ce qui est.
Donc, c'est ça l'anémie, juste pour bien comprendre, quand on n'est pas médecin, qu'on n'y connaît rien, c'est un manque
de globules rouges.
De globules rouges. Et les globules rouges transportent l'oxygène.
Exactement.
Dans le sang. Donc, si on n'a pas ça, déjà on est fatigué.
On est fatigué, on est essoufflé au moindre effort. On peut avoir des vertiges, on peut même faire des malaises, on va dire. Et puis, au moment de l'accouchement, qui est une perte sanguine
importante,
ça peut vraiment entraîner des catastrophes.
Et même ce manque de globules rouges, du coup, même tout au long de la construction du fœtus,
complètement.
On ne peut pas apporter aussi, on va dire, l'oxygène ou l'air suffisant au bébé pour qu'il puisse se construire tout à fait de manière appropriée et correcte. Est-ce qu'on peut, du coup, quand on détecte quelqu'un qui souffre d'anémie,
il y a des conseils à donner. Il y a des aliments dont on sait qu'ils sont riches en fer. Alors, la viande rouge, elle n'est pas à la portée de tout le monde, mais par contre, les abats, le foie est riche en fer. Il y a beaucoup de fer dans les légumineuses. Il y a du fer dans les...
Dans les légumineuses?
Oui, tout à fait.
Donc, si je
prends
des lentilles.
Oui, des lentilles, des pois de terre.
Mais en quantité suffisante, quand même.
Plutôt l'ordre du bol, on va dire.
L'ordre du bol, et plutôt une fois par jour, tous les jours pendant.
C'est mieux. Alors, après ça, c'est un stock de fer qu'on va faire. Donc, si on n'a pas mangé une fois, c'est pas grave.
Mais il faut reconstituer ce stock de fer.
Voilà, exactement. Dans les maternités, ils sont très vigilants. Il y a beaucoup de pays, en tout cas au Burkina, c'est comme ça. On donne systématiquement des comprimés de fer aux mamans, mais c'est moins bien que le fer qu'on trouve dans l'alimentation. Ah oui, j'ai oublié, parmi les aliments riches en fer, c'est toutes les feuilles très vertes. Alors, en France, on dit, mange des épinards, tu seras fort comme Popeye. En fait, ça vient de là. Plus l'arbre est vert foncé, les feuilles sont vert foncé.
Plus elles sont riches. Alors, vous voulez dire que
plus elles sont riches en fer.
Est-ce que ça vaut aussi pour toutes les sauces feuilles dont on se régale en Afrique subsaharienne, avec les feuilles de patates douces, au lendolé au Cameroun, ce genre de choses?
Alors, encore une fois, les plus foncées contiennent plus de fer.
D'accord. Donc des bons sacs à saka, le moringa.
Donc il y a aussi une possibilité de supplémenter les femmes enceintes, et c'est vrai que ça s'est fait dans les maternités à partir du premier jour de la grossesse. Et puis il y a quelque chose qu'il faut mieux éviter pendant la grossesse, c'est l'argile, c'est le kaolin. En fait, il y a une habitude chez beaucoup de femmes dans de nombreux pays.
En Afrique de l'Ouest, parce que c'est assez peu connu en dehors des frontières de l'Afrique de l'Ouest.
C'est assez peu connu, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais l'argile, chez nous, est considérée comme un médicament. Et c'est vrai que ça peut calmer les nausées, que ça peut calmer les aigreurs de l'estomac. Mais c'est vraiment à déconseiller fortement aux femmes enceintes, parce que ça empêche l'absorption dans l'intestin du fer qui serait pris dans les aliments et du zinc. D'accord. Donc le fer avec le risque d'anémie et le zinc dont la carence joue au niveau du système immunitaire, donc avec un risque infectieux.
D'accord. Et donc cette argile ici, en Occident, on connaît cette argile verte qu'on va se mettre sur la peau pour s'hydrater un peu. Elle va avoir les mêmes fonctions, sauf que là, on va pouvoir la sucer et la consommer. On la mange.
Oui.
Et donc, de la manger, ça devient presque une addiction dont il était très difficile de se défaire. Donc, pendant la grossesse, il faut arriver à s'en défaire.
Exactement. Et remplacer ça par, par exemple, contre les nausées, le gingembre, ça a aussi des propriétés qui sont bonnes contre les nausées. Hein, on va pas...
Et des valeurs de protection.
Et aussi des valeurs de protection.
Parce qu'on remplace notre carte kaolin par quoi, alors justement ? Donc le gingembre, on remplacerait par quoi ? Pour justement soulager les nausées, pour soulager tous les maux pour lesquels on prend.
Alors, donc, pas d'automédication.
Non, on est d'accord.
Mais éventuellement, si vraiment on est très nauséeux, ben on peut aller voir la sage-femme, on peut lui en parler. Mais il y a quelques médicaments possibles.
D'accord.
Mais pas d'automédication.
Pas d'automédication.
Et vraiment pas d'argile.
D'accord. L'alimentation variée, on est d'accord. Brigitte, est-ce que vous, en Madagascar, on consomme de l'argile comme ça ? Je parle de Madagascar parce que c'est un pays que vous connaissez bien.
Oui, alors je n'ai pas vu. Peut-être parce que je n'étais pas sensibilisée au moment où j'y suis allée, c'est possible. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu la même vision du kaolin qu'en Afrique de l'Ouest. Ça existe peut-être, hein, je ne dis pas le contraire. Et en tout cas, les effets seraient les mêmes si ça existe. Hein.
Mm-hmm. Le kaolin, c'est un aliment budget. Alors, je note parce que dans ce jeu NutriCart, il y a des aliments qui coûtent cher. Mmh. Alors, ce sont des aliments, pas forcément des aliments, parce qu'il y a du savon aussi, il y a des questions d'hygiène aussi dont on va avoir besoin. Donc, c'est une question d'équilibre du budget également. On va aussi trouver des crackers, on va trouver du Coca-Cola, donc des boissons sucrées. On va trouver aussi tout ça. Est-ce que ça, c'est à éviter également quand on attend un bébé ? Des bissaps très sucrés, vous voyez, ce genre de choses, les thés, les cafés.
Je dirais pas ça, et je pense qu'en fait, les pays dans lesquels nous intervenons, ce sont des pays où il n'y a pas, pour l'instant, ça peut changer, trop de risques d'excès de soda ou de choses comme ça. Ça peut venir, parce que si on regarde certains pays comme l'Amérique latine, ça vient vite. Là, pour l'instant, il n'y a pas de risque d'excès. Il y a un risque, en fait, de gréver le budget et finalement de déséquilibrer un budget tout petit et faire que finalement, si on dépense de l'argent pour acheter un pot de mayonnaise, et on raffole de mayonnaise dans beaucoup de pays d'Afrique, ou du coca, à ce moment-là, on n'a plus le budget nécessaire pour acheter des œufs, pour acheter les aliments de construction dont on a besoin. Je parlerais plutôt en termes de déséquilibre de budget que d'interdit alimentaire.
Oui. Bien sûr. Donc, quand on joue avec les cartes, on a... Une règle du jeu, par exemple, c'est on a chacune a un budget et elle choisit les aliments qu'elle veut mettre sur la table. Et donc, effectivement, il y en a parfois, ça c'est intéressant, hein, qui disent « Ah ben moi, si mon mari n'a pas sa bière, eh ben il n'est pas content. » Donc on met la bière et puis on met le pot de mayonnaise et puis on achète des petits gâteaux ou des bonbons pour l'enfant parce que ça paraît important. Et puis ben, on n'a plus d'argent pour acheter justement les œufs ou autre. Donc on visualise très vite ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Ben, on peut aussi dire, ben, c'est la fête et puis on n'a pas de budget contraint, par exemple. Et dans ce cas-là, on pourra mettre ce qu'on veut. D'ailleurs, quelquefois, on avait fait des budgets comme ça. C'est la fête, vous achetez ce que vous voulez. Ben, elles avaient acheté du riz. Bon, ben, voilà.
Elles avaient acheté du riz.
Oui, et rien de plus, quoi. Donc, on ouvre la pensée, on ouvre la capacité de réfléchir à ce qu'on veut faire pour... à la fois équilibrer son budget, mais pour aussi diversifier son alimentation. L'intérêt de ce jeu, c'est ça, c'est de se mettre à penser autrement, ouvrir les yeux sur ce qu'on peut faire. Et puis surtout, je dirais, reprendre le pouvoir sur ce qu'on fait. On parlait du bracelet là, qui permet de visualiser l'état de nutrition. Si on s'aperçoit qu'un enfant est en bande jaune, comme on dit, en début de malnutrition, et puis qu'on se met, parce qu'on se rappelle ce qu'on a dit, on se met à lui donner des arachides, un peu de viande, etc., ben on s'aperçoit qu'il va mieux. Donc on a repris la main sur ce qu'on peut faire. On n'a pas besoin de... Encore une fois, il ne faut pas que je détruise les médecins, mais on n'a pas besoin. On peut tout de suite réagir. Et ben là, ça renforce la fierté. Hein.
Avec Marie-Madeleine, évidemment, je lui ai posé la question quand on se retrouve face à cette situation qui est assez courante, à savoir, il est évident que les protéines animales, on n'en aura pas. On a finalement, on a quoi, du riz, du manioc, et pas tellement plus. Donc, comment on fait?
Au début, quand on n'avait pas Nutricat, on ne savait pas que le haricot ou le niébé qu'on cultive chez nous remplaçait énormément la viande. Mais c'est avec Nutricat que les femmes ont su que même si tu n'as pas la viande, si tu as le haricot, ça remplace très bien la viande. Donc, elles sont contentes de savoir ça. On cultive le haricot chez nous, elles ont chacun peut-être un peu de haricot, du reste de ce qu'elles ont cultivé de l'année passée. On mange beaucoup d'haricots chez nous. Mais on ne se rend pas compte qu'en mangeant le haricot, on a la protéine. Donc on se dit dans la tête que si ce n'est pas la viande, c'est le poisson et ça coûte cher. Alors qu'on a ce qui est moins cher chez nous, qu'on ne sait pas que ça fait beaucoup un grand bien dans notre organisme. Ça ouvre beaucoup l'horizon et puis les femmes, elles vont mieux se nourrir avec les cartes. Elles jouent et elles se font des connaissances.
Quand on est enceinte à Koudougou, est-ce qu'on sait ce qu'il est bien pour nous de manger ou est-ce qu'on l'apprend?
Bon, quand on est enceinte... On mange au hasard et avec le Nutricat, on sait que même si tu n'aimes pas, il faut manger pour avoir tous les éléments complets dans le corps. Sinon, les femmes, elles mangent comme elles veulent. Mais il y a l'ignorance aussi qui fait que même s'ils ont tout ce qu'elles ont devant eux, ils ne savent pas comment les prendre. Qu'est-ce qui serait bien pour elles? Elles peuvent manger beaucoup plus de thon ou bien de riz sans manger des fruits. Généralement, on ne mange pas de fruits beaucoup chez nous, alors que nous avons les fruits même des arbres. Quand il y en a, c'est la période de qualité, on mange des qualités. Quand c'est la période de goyave ou de quoi, on mange sur les arbres que nous avons dans notre maison. Mais à part ça, on prive notre organisme de fruits, alors que c'est très bien les fruits.
Donc ça vous permet aussi de découvrir avec le Nutricart peut-être des cartes et des aliments auxquels on ne pensait pas forcément dans la catégorie justement de protection, comme les fruits et les légumes. Oui. Et du coup, on va se dire, bah tiens, je vais peut-être prendre des chenilles de karité peut-être.
Oui, on a le droit de manger les chenilles de karité. Et puis aussi, il y a les sauterelles, il y a plein de choses. Il y a le poisson, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent manger. Mais bon, au fait, ils ne savaient pas à quoi ça nous servait, ça donnait à l'organisme. Et puis même quand ils vont le manger, peut-être à la quantité qu'il faut prendre, avec Nutricat, ils savent maintenant avec quelle quantité il faut prendre pour l'organisme.
Une femme qui vient d'accoucher, est-ce qu'il y a traditionnellement un aliment qu'on lui prépare pour qu'elle justement regagne de la force?
Et ce qu'on a l'habitude de lui donner, c'est de la bouillie enrichie. Ouais. C'est fait avec le petit mil, des arachides, du poisson, du moringa, la bouillie du riz ou bien une bouillie légère. Et puis de la soupe de poisson, soupe de viande, on lui donne ça pour qu'elle puisse avoir de la force et puis pour l'allaitement aussi. Mais dans les campagnes, ce n'est pas du tout ça. On donne autre chose. Des fois aussi, il y en a même qui donnent au bébé le nouveau-né de la bouillie pour dire que ça fait partie de leur tradition.
Donc ça, il faut apprendre justement que le bébé, il peut pas, enfin c'est difficile pour lui de manger de la bouillie, donc il vaut mieux qu'il boive du lait.
C'est ça, avec Nutricat, elle sensibilise les femmes maintenant pour dire qu'il ne faut pas donner de la bouillie parce que l'estomac de l'enfant ne peut pas encore digérer la bouillie. Donc elle trouve ça bizarre. Ah, pourtant nous, on a toujours donné ça, ça marche, alors que ça ne marche pas. Tout ça, c'est l'ignorance. Mais maintenant, je crois qu'avec Nutricat, c'est dans les villages surtout que les femmes vont rentrer et puis faire la sensibilisation. C'est elles qui ont beaucoup plus besoin.
L'accès à la connaissance. Plusieurs fois, elle me le dit, on connaît. Maintenant, on a compris, on sait. Et c'est ça qui change complètement la donne.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a souvent, Quand un enfant est malnutri, par exemple, et qui vient se faire soigner, on peut éventuellement faire sentir, en tout cas, ou faire croire à la maman qu'elle est une mauvaise maman. Donc déjà, il y a...
En général, vous voulez dire.
La notion de culpabilité quand son enfant est malade ou mal nourri, je trouve que c'est très toxique. Et donc, avec cette méthode, on essaye de donner aux mamans des armes pour lutter contre cette culpabilité qu'on essaye de leur faire porter, parce que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça se fait. Et quand elles savent... Elles peuvent réagir et elles réagissent plus vite, plus tôt, comme le disait Odile. Et du coup, leurs enfants vont mieux. Par contre, il y a des habitudes très ancrées, effectivement. On parle beaucoup de l'allaitement exclusif, sauf que c'est un terme qui est compliqué à comprendre. Parce qu'exclusif, ça veut dire quoi ?
Oui.
Hein ? Notamment au Tchad, j'ai vu des mamans qui donnaient le sein à leur bébé, tout petit, et puis elles prenaient de l'eau dont la propreté était... à vérifier, on va dire, et elles mettent ça dans leurs mains, puis avec le pouce, elles le mettent dans la bouche du bébé pour qu'il boive, le tout petit bébé, entre les tétés. Et ça, c'est une habitude qui est très, très ancrée. Elles considèrent que c'est indispensable à la bonne santé du bébé, sauf que bien souvent, ça leur déclenche des diarrhées et que ils tombent vite dans la malnutrition.
Est-ce que c'est pas de la méconnaissance aussi de savoir que le bébé qui est complètement allaité, qui ne boit que le lait de sa mère, n'a pas besoin de boire autre chose que le lait de sa mère ?
Oui, c'est effectivement de la méconnaissance, sauf que c'est pas si simple que ça à faire comprendre. Autant c'est relativement simple de faire comprendre les histoires d'aliments de construction, autant l'allaitement exclusif. De mon expérience, je trouve que c'est difficile. Et souvent, les mamans disent « Mais oui, il boit que du lait. » Puis après, si on regarde, on dit « Bah oui, mais on lui donne aussi un peu des spaghettis, ça j'ai vu. » ou la bouillie, comme elle le dit, ou cette fameuse eau, ou on dit des tisanes, du thé, du café, enfin ça a des noms variés. On donne à boire en plus, pour tout un tas de raisons. D'une part, parce qu'on n'a pas forcément la confiance absolue dans la qualité du lait qu'on donne. Parce que éventuellement, les mères, elles vont travailler. Donc, elles confient le bébé à un tiers qui n'a pas forcément grand-chose à proposer au bébé. C'est compliqué, l'allaitement exclusif.
Je voudrais rencontrer une femme pour laquelle ça n'a pas été posé de questions. Je crois que sous toutes les latitudes, on est complètement démunis puisqu'on ne sait pas et on n'a aucun moyen de savoir que vraiment son enfant a tout ce qu'il faut. Or, on va juste préciser que le lait maternel évolue au gré de l'allaitement et contient toutes les propriétés dont le bébé a besoin pour se construire. C'est un aliment de construction jusqu'à l'âge de 6 mois. Après, on peut commencer à introduire d'autres choses.
J'aimerais, alors je ne suis sûrement pas politiquement correcte, mais il me semble qu'il est souvent dit que quel que soit l'état nutritionnel de la mère, le lait de la mère suffit à l'enfant. Et moi, j'ai constaté que les mamans vraiment très malnutries, on parlait du bracelet, on dit qu'une maman malnutrie, son périmètre brachial est inférieur à 210 mm. Essayez de voir ce que ça fait sur vous, 210 mm. C'est vraiment pas épais. Ces mamans-là, elles donnaient le sein, mais il n'y avait pas grand-chose dans le sein. Et le bébé était malnutri. Et dès qu'on redonne à manger correctement à la maman et qu'elle reprend du poids et du poil de la bête, hop! On l'entend boire, le bébé. Et on les voit grossir pratiquement. En une semaine, ils récupèrent. Et donc, la nutrition de la maman, allaitante, il me semble que c'est très, très important. Parce que ce n'est pas complètement vrai que le lait maternel, quand la mère est malnutrie, ça suffit. Enfin, moi, je n'y crois plus.
C'est les fondations de notre maison. Il faut les soigner.
Les fondations, il faut les soigner. Et c'est la maman, les fondations.
Le goût du monde... Clémence de Navi. Now rise, begin. Time to awaken and ask why and when. Don't hide from the questions that rise deep within. I can't go round again. I can't go round again. Thank you. can see.
Rise de Willow and Jamani Harrison, vous écoutez le Goût du Monde, vous nous rejoignez, bienvenue à tous. Quelle aventure que celle dont on parle aujourd'hui, à savoir avoir un enfant, nourrir cet enfant, construire cette maison qui permettra à l'enfant de grandir dans le ventre de sa maman et de naître et de manger, d'être en bonne santé. Nous parlions à l'instant du lait maternel et de cet allaitement important et du besoin fondamental de bien se nourrir pour pouvoir ensuite nourrir à son tour et apporter tous les aliments dont a besoin son enfant. Il y avait une question qu'on se posait assez fréquemment qui vient aussi de réflexion, la taille du bébé avant un accouchement. Est-ce qu'il est important d'avoir un petit bébé pour accoucher facilement ?
Ça fait partie des croyances, mais qui sont quelquefois très fortes. Et il y a des pays où il y a une auto-limitation volontaire de la mère par rapport à l'alimentation, parce qu'elle a peur que le bébé grossisse trop et qu'au moment de l'accouchement, il y ait des difficultés. Et c'est vrai qu'il faut se placer dans des pays où, malheureusement, toutes les femmes n'ont pas accès à la césarienne et que la mère qui est enceinte peut avoir connu quelqu'un de sa famille qui est morte en couche du fait de l'absence de césarienne, qui renforce sa croyance. Mais ce n'est qu'une croyance. Quelquefois, c'est des croyances qui peuvent être éventuellement entretenues par le corps médical qui réagit, logiquement, le bébé va grossir et va peser trop et la sortie va être difficile. Mais c'est des croyances qu'on peut contrer, parce que je crois qu'à Madagascar, vous avez l'expérience d'avoir pu faire changer les croyances.
On a accompagné un médecin qui pensait qu'effectivement, il fallait que le bébé ne soit pas trop gros. Ce n'est pas tellement une question de taille, mais plutôt de poids. Elle avait peur que le bébé soit trop gros pour pouvoir sortir, surtout chez les primipares d'ailleurs.
Et alors, donc, quand on dit primipare, c'est une personne, c'est
premier bébé. Et donc, elle conseillait plutôt de restreindre l'alimentation, au moins dans le dernier mois, de manière à ce que le bébé arrête de grossir un peu pour qu'il sorte plus facilement. Et on a mis longtemps avant de la convaincre d'essayer d'avoir des bébés d'un poids normal, aux environs de 3 kilos, et qui sortiraient quand même. Et puis, elle a pu constater qu'en effet, ça n'aggravait pas les difficultés dont elle avait peur, hein, puisque effectivement, les moyens techniques sont quand même très, 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 très limités. Et que quand les enfants avaient une maman normalement nourrie et un bébé normalement nourri, ça se passait plutôt mieux. Pas forcément, ça n'influençait pas vraiment sur l'accouchement, mais après, les semaines et le premier mois se passaient bien et l'enfant ne tombait pas dans la malnutrition, en tout cas pas aussi vite. D'autant plus qu'on apprenait aux mamans par les méthodes de NutriCart, etc. Donc elle a fini par constater que c'était quand même plutôt bénéfique. Donc oui, ça peut s'apprendre. Et quand ce sont les matrones qui font les accouchements, peut-être qu'elles ont aussi cette peur-là. Et que c'est vrai que si le bébé est microscopique, il sort plus facilement. Mais enfin, après, ça ne se passe pas bien.
Beaucoup, de toute façon, d'aliments portent des vertus, beaucoup de rites, En fait, c'est un moment de la vie qui est tellement particulier qu'il y a énormément de croyances autour de ce moment aussi, de ce vecteur entre un monde et un autre. Et ces vecteurs sont aussi concrètement transférés dans l'alimentation, que ce soit le kaolin dont on parlait au début de l'émission, que ce soit le gingembre ou des thés et tisanes. Ce qui est bien, c'est qu'en jouant, on réalise qu'on peut conserver ses croyances parce qu'on a des alternatives.
À la fois, il y a des alternatives et puis il y a aussi, me semble-t-il, la discussion entre les différents participants. Parfois, chacun a ses propres tabous et confronter des tabous différents au propos d'un même aliment, parfois ça ouvre les yeux sur le fait que peut-être on peut contourner les tabous. Il ne se passera pas forcément de catastrophe. Parce que l'œuf, qui est quand même assez emblématique des tabous, selon les endroits, on dit qu'il va faire. L'enfant sera chauve, il sera muet, il sera voleur, il sera. Enfin, il a tout un tas de calamités. Quand on met tout ça autour de la table, on se dit que, ouh là là, peut-être qu'on peut louvoyer. Puis c'est vrai qu'on peut remplacer, comme disait Odile. Hein. Si on n'a pas d'œufs, on peut manger des haricots. Hein. Mmh. Il n'y a aucun problème. Si vraiment on a trop peur des conséquences à cause de la croyance, on peut la contourner.
Et dans le respect des rites et des croyances, voilà. Du coup, on vit tous en bonne intelligence.
Voilà, on n'a pas à dire c'est bien ou c'est pas bien. Ça existe et on fait avec et on voit comment on peut quand même aller bien.
De toute façon, c'est à l'épreuve de l'expérience parce que quand on joue, quand on mange mieux, les conséquences sont directes. Vous le disiez, je ne le croyais pas. D'ailleurs, je vous ai dit, vous êtes sûre, quand on mange bien, quand on est une mère et qu'on allaite, au bout d'une semaine, ça va mieux. Vous m'avez dit, mais oui. Donc, c'est ça qu'on retient, en fait. C'est l'expérience est là et clairement, on va tout de suite avoir une amélioration de l'état de santé.
Ce à quoi vous faites allusion, c'est que je parlais des femmes qui venaient d'accoucher et qui étaient malnutries, qui n'avaient pas de lait ou pas en quantité suffisante et à qui on apportait une farine enrichie. Elles l'ont consommée pendant une semaine, 10 jours, et on voyait le lait qui arrivait, le bébé qui tétait et le bébé qui grossissait. Pas la maman, hein, mais le bébé. Et c'est vrai que les mamans l'avaient appelée la farine miracle. Ça tenait un peu du miracle de voir qu'effectivement, si on se nourrit bien, hop, pour le nouveau-né, ça fait du bien aussi.
Alors, on n'a pas toujours besoin de farine enrichie. Non. Qu'est-ce qu'on doit privilégier quand on allaite son bébé dans les 6 premiers mois où l'allaitement est préconisé comme exclusif ?
Non, on parle de farine enrichie parce que quand on a cette notion-là, c'est de la farine auquel on va rajouter de façon un petit peu volontariste, un petit peu éventuellement artificielle.
Pour accélérer justement.
Oui, mais encore une fois, une alimentation équilibrée et variée, accompagnée d'une eau de bonne qualité, suffit tout à fait.
Vous voulez dire que ce n'est pas plus difficile que ça?
En fait, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de mamans, après avoir assisté au NutriCart, ils disent « Ah oui, mais finalement, j'ai appris que même avec mon petit budget, je peux nourrir ma famille de façon équilibrée. »
C'est vraiment très, très important, ça. C'est qu'elles constatent qu'en effet, ça a des effets positifs et sur leur porte-monnaie et sur la santé de leur famille et sur l'humeur de leur mari, d'ailleurs. Parce aussi. Que ça a de l'importance.
On entendait au début de l'émission Marie-Madeleine raconter qu'elle rentrait chez elle en disant « On va manger ça maintenant. »
Absolument.
Merci beaucoup à toutes les deux, Brigitte Audras, Odile Oberlin. Merci aussi à Marie-Madeleine, bien sûr, de la communauté des femmes de Koudougou. Les liens, les informations concernant et les NutriCart et l'ONG Appel. Et bien sûr aussi la communauté de Marie-Madeleine seront sur la page du Goût du Monde. Des liens aussi vers les associations qui jouent déjà au NutriCart. Y a-t-il chez vous des aliments sur lesquels vous vous interrogez? Le lien alimentation-santé vous semble-t-il évident? Y a-t-il un plat dans votre pays qui accompagne les premiers jours de la naissance d'un enfant et donc les premiers jours de la nouvelle maman? Racontez-nous sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Cécile Benissi pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde. Merci à vous de votre fidélité. Bonne semaine à tous.